Et puis on va se demander bah, s'ils sont des modèles. C'est bien parce que c'est presque un cours. Hein. Grand A, le guerrier. Grand B, le combattant. Grand C, un modèle, point d'interrogation. ça a été très bien. Pour un dernier café littéraire, c'est moins fatigant. Je vais commencer avec Peter Brett. Est-ce que déjà vous faites, vous, une distinction entre guerrier et combattant?
I could see, yes, all right. I think that a warrior is someone who's been trained specifically for combat within a group. And so that's not necessarily the same thing as fighter. I would say that all fighters are warrior, or all warriors are fighters, but all fighters are not necessarily warriors. And in my own books, I think I do make that distinction between people who choose to fight when they have to and people who are trained to fight from a very young age.
Sauf que justement... Pardon, oui. Excusez-moi. J'ai pas l'habitude.
Donc oui, je pense qu'effectivement, un guerrier, c'est quelqu'un qui a reçu un entraînement pour et notamment pour se battre au sein d'un groupe, alors que les combattants n'ont pas eu d'entraînement. Donc je dirais que tous les guerriers sont des combattants, mais tous les combattants ne sont pas des guerriers. Et donc dans mon livre, je fais cette distinction. Il y a des personnages qui se battent quand ils doivent se battre et d'autres qui ont été entraînés pour ça.
On peut même parler d'une hiérarchie. Entre le guerrier et le combattant.
Yes. Well, I think it's different. In my own stories, the warriors, the Krasian warriors, are taken when they're very very young, like 9 years old, separated from their families and put into special training to learn how to fight both alone and in groups. And have specialized combat skills. But then I have other characters who come to fight as adults and don't have that kind of group training and that special training, but continue to fight. And so I think the warriors probably are more skilled, but that doesn't necessarily mean that they are... better or how can I say
supérieur peut-être
maybe
yeah there's a difference between having skill and winning a fight because sometimes the most skilled warriors can make a mistake or a miscalculation or the less skilled warrior is just faster or thinks quicker or does something unexpected. And so while having all of that training can give you a huge advantage, it doesn't necessarily mean you're going to be the victor.
Donc je pense que ce sont bien deux choses différentes. Dans mon roman, il y a les guerriers de Krasia qui, à l'âge de 9 ans, sont séparés de leur famille. On leur donne une formation spéciale pour savoir se battre à la fois seul et en groupe. Ils apprennent les compétences du combat, d'autres apprennent à se battre uniquement à l'âge adulte et n'apprennent pas à se battre en groupe et n'ont pas d'entraînement spécial. Malgré tout, ils apprennent à se battre d'eux-mêmes. Donc pour moi, un guerrier, c'est quelqu'un qui a des compétences particulières. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est meilleur ou supérieur aux combattants. C'est différent. C'est pas parce qu'on a les compétences qu'on va forcément gagner. Quelqu'un qui a subi un entraînement peut faire une erreur, et quelqu'un qui n'a pas suivi d'entraînement peut être plus rapide, penser plus vite ou faire quelque chose d'inattendu. Ce qui veut dire que avoir l'entraînement ne veut pas forcément dire qu'on va gagner.
Oh bah la transition est toute trouvée pour se tourner vers Xavier Mauméjean, parce que dans Rosée de feu, on est vraiment dans cette problématique là, avec là aussi des guerriers et des combattants, et là aussi on peut, je pense, marquer une différence entre eux.
Oui, absolument. Le roman se base sur l'année 1944-1945 au Japon, et tout le monde est impliqué dans la guerre, au point que l'état-major de la marine japonaise avait déclaré que tous les hommes du Japon impérial sont membres d'un commando suicide, donc civils, militaires, etc. Et dans ce qu'a dit Peter Brett, évidemment, j'ai entendu des choses qui m'ont parlé, parce que il y a des combattants, ce sont même les hommes, les civils qui sont prêts à devoir se battre en cas d'invasion. Il y a les jeunes étudiants qu'on va chercher à l'université, auxquels on donne une formation sommaire pour devenir pilote suicide. Et il y a les guerriers, les stratèges, qui ont mis en place la stratégie de la mort assurée, et qui, il faut le reconnaître ça, à la toute fin de la guerre, suivront dans le suicide les jeunes hommes qu'ils ont envoyés à la mort. Donc oui, il y a une distinction, une hiérarchie, vous avez parlé de hiérarchie, ça me paraît juste. Et pareil, dans ce que disait Peter Brett, il y a eu des cas de jeunes novices pilotes qui ont accompli des exploits remarquables alors qu'ils avaient un mois d'entraînement, et des vétérans de la guerre en Chine qui se sont fait massacrer en très peu de temps. Donc on trouve en effet tous les cas de figure.
Lionel Davoust, même question, parce que j'ai eu la même sensation en lisant La Volonté du Dragon, de cette distinction entre guerriers et combattants et cette forme de hiérarchie.
Disons que ce qui est, moi, ce qui m'avait assez intéressé de traiter dans La Volonté, c'est qu'en fait, on a un empire qui est très développé, très technologique, qui a appris en fait à apprivoiser les énergies magiques libres du monde pour s'en servir de machines. Et c'est à peu près les seuls dans le monde à avoir réussi ce tour de force. Donc, ils ont en fait une technologie très avancée par rapport au reste du monde, qui est plus ou moins resté à l'ère médiévale. Et ces gens-là, comme tout empire bien intentionné, se sont dit que finalement, le monde, si c'était eux qui dominaient, la planète serait un endroit beaucoup plus fréquentable. Donc ils se sont mis en tête de conquérir le monde entier pour le protéger en un sens de lui-même, et parce qu'ils se considèrent comme étant civilisés. Et
ça m'a rappelé des choses.
C'est toute ressemblance avec des empires existants ou ayant existé, ce serait bien entendu fortuite. Et en fait, c'est ce qui m'intéressait, c'est qu'en fait, on a donc un empire qui conquiert le monde petit à petit, patiemment, assimile les peuples et les cultures depuis des siècles maintenant. Et en fait, ce sont des gens qui n'ont grosso modo assez rarement eu l'habitude de rencontrer de la résistance. Et en fait, ce que je trouvais intéressant et amusant à présenter dans ce livre-là, c'est que on voit ces soldats impériaux qui ont l'habitude d'être en fait déjà qu'on s'agenouille devant eux dès qu'ils arrivent, et surtout qui sont des gens qui quelque part sont des guerriers parce qu'on a des soldats dont le métier c'est de faire la guerre, mais qui ont tellement l'habitude de gagner avec leur énorme supériorité technologique qu'ils ont oublié ce que c'est que de combattre. Et en fait, je trouvais amusant et intéressant en fait de présenter ces gens-là qui sont confis, on va dire, dans une certaine supériorité, et de devoir finalement se rendre compte que quand on leur résiste, et ben finalement la guerre n'est pas aussi propre et sympathique que ce qu'elle semble être.
Il y a une métaphore de la guerre au travers du jeu. Je vais dire d'échecs pour simplifier peut-être un petit peu, parce que c'est pas tout à fait un jeu d'échecs, mais grosso modo c'est quand même ça, avec justement l'impression qu'on a le guerrier qui va être devant l'échiquier et bouger les pièces, et puis que les combattants, eux, ils sont vraiment sur le champ de bataille, et c'est eux qui en prennent, allez, vous me permettez l'expression, plein la gueule.
Tout à fait. C'était aussi, je trouve qu'il y a un côté assez intéressant, qui est assez terrible et terrifiant, mais qui, quand on prend un peu de recul et qu'on étudie, mettons, l'histoire en... Pas, évidemment, ça n'empêche évidemment pas d'avoir la moindre compassion pour les gens qui meurent sur le champ de bataille et tout, mais si on se pose plus sur une position d'historien, je trouve qu'il y a un aspect assez intéressant et en même temps assez terrifiant, mais bon, malheureusement l'humanité est souvent comme ça, c'est que on a souvent, en tout cas, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, d'un côté on a des généraux, des rois, des dirigeants qui ont des cartes et décide d'invasion, décide d'offensive militaire, comme il déplacerait des ressources économiques ou comme il déplacerait des pions sur une carte, effectivement. D'où effectivement le côté un peu avec le jeu d'échecs. Les gens sur le champ de bataille, et c'est encore plus vrai quand on a l'habitude toujours de gagner, on se rend compte que là, pour le coup, la vérité du champ de bataille est malheureusement très différente des guerres prétendues propres, ce dont on peut entendre parler aujourd'hui de plus en plus. La guerre n'a jamais rien de propre, et quoi qu'on croit les dirigeants qui les décident dans des cabinets parfois très feutrés, en discutant de façon même très civile entre camps ennemis.
Julien Delval, la même question, mais finalement, la problématique va être différente. Quand on est illustrateur, est-ce qu'on fait une différenciation entre un guerrier et un combattant ? Est-ce que déjà c'est faisable par l'illustration ?
La différence.
C'est pas philo aujourd'hui.
Ouais, c'est pas évident là. On va dire que le guerrier va avoir un équipement ou des armes qu'il faut qu'on sente qu'elles sont des amis. Donc il va avoir, à mon avis, plus de patines. Les armes sont peut-être plus abîmées. Il les porte d'une manière particulière. Voilà, c'est vraiment. Il doit faire corps avec son équipement, je pense.
Il n'est pas frais et moulu de l'Académie militaire.
Voilà, c'est ça. Ce n'est pas un beau gars bien clinquant.
Et là aussi, est-ce qu'il y a des archétypes, il y a des objets, il y a des formes peut-être aussi qui, dans l'imaginaire, vont tout de suite laisser transparaître que c'est un guerrier ou un combattant ?
Justement, quand j'ai vu le sujet de la table ronde, là, j'ai pensé plutôt moi à un ami sculpteur qui fait des sculptures en bronze et qui a créé une statue qui est un guerrier. Donc c'est une forme abstraite, on reconnaît un homme. Et ce qui fait, qui détermine que c'est un guerrier, d'un coup, c'est une excroissance qui est quelque part une arme. Donc quelle qu'elle soit, quoi. Un fusil qui dépasse, un sabre au côté, un bouclier. Donc je crois que c'est cet élément plus qui fait qu'on est face à un guerrier. Voilà. Après, il y a la posture, bien sûr.
Oui. Qui forcément doit être un petit peu agressive.
Oui, s'il est sur ses gardes, il est prêt, il est bien campé. Voilà. Un peu costaud.
Alors, la deuxième partie de notre thématique, c'est de savoir est-ce que ces gens-là sont des modèles ? Est-ce que quelqu'un dont le métier est de tuer son prochain, Peter Brett, peut être un modèle ?
Well, I think throughout history, our cultures have been shaped by war, always. Since the beginning, fighting one another to establish a power base is how countries are formed and how civilizations rise. But then inevitably, they start to rot. And I think that this is something that Lionel was talking about, where a culture will get so powerful and so full of themselves that they forget the core thing that unified them in the first place. And that's why we see civilizations rise and fall throughout history. So is that a role model? I don't know that's, you know, I don't know that I want my children to be warriors necessarily. But I think that if we ignore that model, we're not preparing ourselves for the world either. And so we have to be aware that even if we don't want to fight, and even if we don't believe in fighting as a way to make our points, and then a cannon will go off.
Ils sont pas d'accord là-bas.
Even if we don't believe in war, we have to be prepared if war comes to us.
Je pense que à travers l'histoire, on voit bien que toutes les cultures ont été façonnées par la guerre. C'est comme ça que s'établissent des relations de pouvoir, c'est comme ça que se créent des pays et des civilisations. Mais inévitablement, cette civilisation finit par pourrir. Et comme Lionel l'a dit tout à l'heure, les civilisations deviennent si puissantes et si fières d'elles-mêmes qu'elles en oublient ce qui les unifiait à l'origine. Et c'est pour ça qu'on voit des civilisations se créer et se détruire. Quant à l'aspect de modèle à suivre, je ne suis pas convaincue de vouloir voir mes enfants devenir des guerriers. En revanche, je pense que si on ignore la guerre et ce modèle, on n'est pas préparé à affronter le monde. Même si on ne veut pas de la guerre, il faut quand même être préparé si jamais elle vient à vous.
En tout cas, si tous les guerriers sont comme votre petite fille tout à l'heure, on risque rien.
You don't want to see her when she's angry.
Vous voulez pas la voir en colère.
Xavier, la question du modèle, peut-être pas le modèle, je sais pas, on va voir, mais au moins la référence dans Rosée de Feu, elle est omniprésente. On a une génération de militaires japonais qui a eu des succès. Alors après, on peut discuter des succès hein, sur l'invasion de la Mandchourie, etc., les guerres avec la Russie et autres. Mais le fait est là que dans la société impériale, il représente un modèle pour toute une jeune génération. Est-ce que ce n'est pas justement ce fait qu'ils s'érigent en modèle ou qu'on les considère comme des modèles qui a permis de mettre en place cette politique de commando-suicide beaucoup plus facilement ?
Je pense pas, justement. Il y a eu un putsch en 36 au Japon qu'on appelle la révolte des jeunes officiers, qui vient du fait que cette génération pensait avoir été trahie par les politiciens, abandonnée par leurs aînés militaires, etc. Il y a eu une répression pas vraiment sévère à leur égard, parce que je pense qu'ils répondaient à une certaine attente. Et donc, dans un premier temps, ce qui est étonnant, c'est que les jeunes officiers ont installé un certain militarisme par absence de modèle. Puis, à partir de 1944, il y a vraiment là, par contre, une nécessité de modèle. Du modèle, comme on pourrait en parler, en industrie qui va générer des copies, c'est-à-dire que il y a de grands pilotes qui sont dégagés du front pour faire des tournées dans les grands magasins de Tokyo, pour rencontrer des gens. Il y a une sorte de starification, je pense notamment à Saburo Sakai, qui en plus était quelqu'un de bien, mais et qui devait parler de ses exploits dans des grands magasins. Donc là, il y a
dans le livre, on voit justement un des héros arriver dans l'école où se tient le troisième personnage, le petit garçon.
Voilà, tout à fait, jusque dans les écoles primaires où arrivent, même on habille parfois les enfants en soldats pour recevoir les vrais soldats. Il leur fait faire l'exercice dans la cour. Oui, tout ça est vrai. Donc là, il y a eu, mais très clairement, une utilisation évidemment pas innocente du modèle pour générer des copies, donc quasiment dans un contexte industriel.
Mais est-ce que c'est moi, ou est-ce qu'il y a un vrai fossé culturel quand même quand on regarde cette situation? Moi, j'ai bêtement l'idée de ces soldats français partant un peu la fleur au fusil en 14, aller se faire tuer dans les tranchées, sauf qu'ils n'en ont pas conscience immédiatement de cette situation-là. Là, on sait. Même s'il y a des moments de doute, il y en a qui hésitent, il y en a qui se posent des questions, mais ils sont quand même pour la majorité partant en sachant qu'ils ne reviendront pas.
Oui, mais alors là on pourrait y passer des heures. Le phénomène kamikaze est vraiment étrange. Pour essayer de juste, je finirai sur ça, pour expliquer le degré d'incompréhension, je rapporte une anecdote qui est réelle. Donc il y a un groupe kamikaze qui doit faire le plongeon le matin même. Donc ils ont un repas prévu qui est très codifié, etc. Et l'un des pilotes refuse de prendre du jus de pamplemousse parce que ça pourrait lui causer des aigreurs d'estomac et le distraire au moment venu.
Lionel, la question du modèle, est-ce qu'elle se pose par exemple dans La Volonté du Dragon?
Moi, je trouve intéressante la façon dont vous avez formulé la question au début, en disant, voilà, la guerre, le combattant, est-ce qu'on peut l'ériger en modèle, sachant que son métier, ça consiste à tuer des gens. Je trouve que ça réduit un petit peu, surtout en tout cas dans nos cultures. Pour ça, je trouve ça intéressant ce que dit Xavier sur la valeur justement du combat et tout dans la cité japonaise, qui est un élément assez fondateur. Effectivement, donc faire la guerre, c'est mal. Il faut pas tuer des gens, les enfants, ne faites pas ça chez vous.
Lionel Davout, c'était la nouvelle Miss France.
Mais voilà. Derrière, il y a l'idée finalement, effectivement, donc parler aussi de soldats français qui parlaient la fleur au fusil. Derrière l'idée de guerre, il y a l'idée de combat, et le combat n'est pas forcément quelque chose de négatif. Alors effectivement, la guerre est toujours quelque chose de regrettable, même si Peter Brett en a rappelé l'importance fondatrice dans l'histoire. Bon, c'est quelque chose qu'on ne souhaite à personne, mais la valeur du combat en soi, à mon sens, n'est pas quelque chose de négatif. C'est-à-dire qu'on peut se battre pour de bonnes causes, sans forcément aller jusqu'à prendre les armes. Le combat, l'adversité et le triomphe sur l'adversité est aussi une forme motrice, que ce soit pour l'individu ou pour une société. Alors, évidemment, sa pire des expressions est la guerre, mais je trouve qu'il y a quelque chose de fascinant dans le fait d'avoir des figures qui sont prêtes à tout risquer, jusqu'à donc perdre la vie, pour quelque chose dont ils considèrent qui est positif. Qu'ils aient raison ou pas, ça c'est le jugement de l'histoire derrière. Mais viennent se greffer sur la question de guerre et sur la question de combat, des choses très complexes comme l'honneur, le respect entre adversaires, Xavier en parlait magnifiquement bien, je ne sais plus si c'était avant-hier, hier ou avant-hier. adversaires, le respect entre adversaires et ce genre de choses, il y a tout un lien très fort et très complexe qui se lie. Et la valeur, Carlos Castaneda, ethnologue américain qui a été grandement décrié pour ses liens avec les plantes hallucinogènes, et je pense aussi grandement mal compris, mais il parle dans l'initiation qu'il reçoit, il se considère comme un guerrier, mais un guerrier de la connaissance. Et le combat, la guerre, tout ça, ce sont des forces motrices qui, dans le pire des cas, s'exprime effectivement sur un champ de bataille avec des conséquences regrettables, mais le combat en soi, pour moi, le vouloir triompher de l'adversité, vouloir triompher des forces qu'on nous impose, oui, je pense que moi, là, pour moi, il y a quelque chose qui est clairement positif et qui a une valeur de modèle.
Il n'empêche que, dans la volonté du dragon, on a une armée qui suit son chef aveuglément. Bah, d'abord parce qu'ils sont sûrs de gagner, peut-être que ça aurait été différent s'il y avait une incertitude. Mais du coup, ils vont déchanter proportionnellement, finalement, au trop de confiance qu'ils pouvaient avoir.
Oui, alors, dans la volonté, malheureusement, effectivement, on a des guerriers et donc il y a des morts. Et effectivement, chaque côté est effectivement croit aveuglément on va dire, à l'idéal qu'il représente, puisqu'on a l'Empire se veut une puissance civilisatrice. Avec tous les guillemets que ça peut vouloir dire, disons que ils se considèrent comme des civilisateurs, donc ils considèrent que leur modèle est le bon et que les autres sont juste bons à être impactés dans les musées. Et puis ceux d'en face considèrent que leur modèle est le bon et que l'isolationnisme est, en disant, la bonne façon de fonctionner pour eux. Donc, mais on a là, et je pense que c'était ça principalement qui m'intéresse, on a une puissance motrice très forte derrière où on a des gens qui sont persuadés qu'ils ont raison, avec des conséquences tragiques, mais cette force motrice, je pense qu'elle peut être canalisée vers des fins positives. Alors malheureusement, là, on a l'histoire d'un conflit et d'une guerre, mais au-delà de ça, le côté jusqu'au boutiste du guerrier et du combattant, je le trouve fascinant, et la force motrice du combattant, pour moi, quand on l'utilise à de bonnes fins, est quelque chose d'éminemment positif.
Avec l'honneur aussi derrière, hein, puisqu'à un moment, il y a un point de non-retour, si on fait demi-tour, on est déshonoré.
L'honneur est une chose complexe, et l'honneur varie en fonction des cultures. C'est vrai qu'on en a une vision souvent où le combattant honorable est celui qui effectivement ne cédera pas, ne fuira pas. D'autres civilisations pourraient considérer que rien n'est plus honorable que la victoire, et qu'à ce moment-là, si ça veut dire qu'il faut fuir à un moment, c'était amusant. Je crois que c'était avec c'était Peter Brett ou Brandon Sanderson, on en parlait à midi, où pendant la guerre d'indépendance aux États-Unis, les fusiliers américains ont refusé de se mettre en rang d'oignon devant les Britanniques, qui eux aussi étaient en rang d'oignon à se tirer dessus, comme font là, on entend les détonations des...
comme dans Barry Lyndon,
voilà, à se tirer dessus, et les Américains, ils se sont dit ça va pas, non, on va se barrer dans la forêt, et là, ils ont battu les Anglais. Les Anglais ont trouvé ça extrêmement déshonorable, n'empêche que les Américains ont gagné.
Alors voilà, justement, là où je voulais un petit peu en venir, je reviens avec vous, hein, vous inquiétez pas, je vous oublie pas, mais c'est ce que vient de dire Lionel, c'est extrêmement important, parce que c'est un des déclics dans la volonté du dragon, mais c'est aussi le cas dans Rosée de Feu, c'est sans doute aussi le cas. La règle, la guerre, c'était extrêmement codifié. Et lorsqu'un camp décide de ne plus jouer le jeu, entre guillemets, ça modifie tout, finalement.
It's true. I think war has no rules, and we keep trying to convince ourselves that it does because it makes us feel more civilized about killing each other. But at the end of the day, we're still killing one another, and it's more important, I think, in some ways, to win than it is to have the rules. Now that doesn't seem civilized, but war in and of itself is not. And I think that a point that I want to make about what we were saying before, I think that a lot of war is dependent on having a young generation of fighters who are innocent, who think that who are still young and strong and don't know what it's like when their bodies fail them and feel like they're immortal. Because those are the ones who get passionate about marching off to show their way of life is better. And then after they've been through the messy parts, as Lionel put it, the veterans, I think, are maybe not so eager anymore. They may still believe the same things, and they may still be proud, but that eagerness to jump into the fight, now that they've seen the horrors of actual combat, I think, dies away. And so... you know, it was something I think that happened a lot during the Vietnam War, where they were constantly rotating in young troops, and the young troops would die at a much higher rate than the veterans because they thought that they couldn't be hurt, and they would go out and fight boldly, and when they saw how horribly they could be injured and how easily they could fall into a trap, they became more cautious and more skilled. And then as those warriors were rotated out and sent back home and new ones were sent in, more and more casualties mounted, whereas if the veterans had stayed in the fight, they would have been more cautious and not as foolhardy, and the casualties would have been lower.
Oui, donc effectivement, selon moi, la guerre n'a pas de règles. Je pense qu'on essaye de se dire qu'elle en a, tout simplement pour paraître plus civilisé par rapport au fait de tuer quelqu'un d'autre, mais à la fin de la journée, ben, on tue toujours quelqu'un d'autre. Ce qui est plus important, c'est gagner par rapport à respecter les règles, mais ce n'est pas civilisé, la guerre n'est pas civilisée, et je voulais aussi préciser que en guerre, on a besoin de gens jeunes, des gens innocents qui sont forts, qui ne savent pas ce que c'est quand leur corps tout à coup cède sous les blessures et qui se croient immortels. Comme ça, eux vont au combat avec beaucoup de passion. Ils sont convaincus que leur façon de vivre est la meilleure et qu'ils ont bien raison d'aller se battre. Ensuite, quand ils font face à l'aspect un peu plus dégoûtant de la guerre, c'est différent. Les vétérans, je pense, ont les mêmes croyances, pensent toujours qu'ils ont raison d'aller en guerre. Cependant, ils sont moins impatients d'aller se battre quand ils ont vu l'horreur des combats. Et je vais vous donner l'exemple de la guerre du Vietnam, où il y avait un système de rotation où on envoyait des jeunes au combat et on les ramenait à la maison, on en envoyait d'autres. Les jeunes mouraient plus vite que les vétérans, parce qu'ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas être blessés et que du coup, ils se battaient comme des fous. Et ensuite, une fois qu'ils se rendaient compte qu'ils pouvaient être blessés ou qu'ils pouvaient tomber dans des pièges, ils devenaient plus prudents. Mais comme ceux-là qui avaient compris qu'il fallait être plus prudents étaient renvoyés aux États-Unis pour qu'on envoie encore des jeunes, d'autres jeunes, le nombre de blessés était vraiment très important, alors que si on y avait laissé des vétérans, il aurait diminué.
So, what we see now, I think, throughout history, there have been military advances that were considered dishonorable. The bow and arrow instead of the sword, the gun instead of the bow and arrow. And with each one of these dishonorable changes, the victor was the one that got to write history. And that became the type of honorable warfare until the next advancement. I think what the problem that we're seeing in the world now is that the advancement has been when armies are so powerful that you almost can't fight against them, to go behind the army and attack innocents instead of bothering to fight the soldiers is what we're seeing a lot of in the world now, and that's something that we have to adapt to as a people and decide whether the solution to that is to respond with soldiers or to respond with strength and solidarity, or if there's another way to answer that.
Et donc l'histoire a vu beaucoup d'avancées. On est passé de l'épée à l'arc, ensuite on est passé de l'arc à l'arme à feu. Et au début c'était considéré comme un peu de la triche en fait, c'était pas très honorable. Et puis finalement celui qui gagnait devenait honorable jusqu'à ce que l'arme suivante prenne la place. Et aujourd'hui on a des armées tellement puissantes que finalement la seule solution qu'ont trouvé certains combattants c'est de ne pas s'attaquer à l'armée directement, mais aux innocents qui sont derrière. Alors il faut s'adapter à ce nouveau style de guerre. La solution est-elle d'envoyer des soldats pour combattre, d'être fort et solidaire? C'est difficile à savoir.
Xavier, sur ces questions-là, Xavier. Au moment où débute le Rosée de Feu, l'avancée américaine, elle est inexorable dans le Pacifique.
Oui.
Et finalement, c'est une forme de solution que trouve... que trouvent les Japonais en utilisant ces commandos suicides, parce qu'on brouille les cartes, en fait.
Oui, alors il faut savoir que on a une très mauvaise idée du mouvement kamikaze et ça n'a pas été le bel engouement reçu par tout le monde. Déjà, il faut savoir qu'il y a deux aviations au Japon, l'aviation de la marine et l'aviation de l'armée. C'est une invention de l'aviation de marine. L'armée, sous la contrainte, l'a fait par la suite. Et on s'est longtemps demandé, et il y a eu des officiers qui ont fait les tours de base. Il faut savoir que les pilotes étaient très jeunes. Pourquoi devaient-ils se sacrifier? Et c'est pas du tout pour une espèce d'engouement pour l'empereur. Il fallait se sacrifier pour rien. C'est-à-dire qu'il fallait arriver à la volonté vide, oublier l'empereur, oublier sa mère, c'est très important, la mère, oublier son épouse, etc. Et la meilleure solution était de se sacrifier pour rien. Donc on essayait de réglementer l'honneur, mais un honneur qui, enfin, la stratégie kamikaze n'a rien de japonais culturellement. Et c'est très curieux. Et je le rapportais hier à une autre table ronde. Moi, quelque chose qui m'a marqué, c'est que il y a une unité entière de pilotes vétérans, donc des vieux qui devaient avoir presque 30 ans, des vétérans de la guerre en Chine, qui ont refusé, mais d'emblée, d'appliquer la stratégie kamikaze en disant que c'était du romantisme morbide, je cite, au nom d'un honneur et de règles. Oui. Puis il faut savoir aussi qu'à la fin de la guerre, entre ce qui est le temps qui a séparé Hiroshima de Nagasaki, il y a eu des massacres entre officiers, notamment à Tokyo, sur deux conceptions de l'honneur, qui fait que je rejoins ce que disait Lionel, il y a une peut-être une candeur, mais en tout cas une vraie conviction à défendre à chaque fois son camp et ses règles. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu disais sur les Américains. J'avais lu quelque part le fameux proverbe français « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire » et quelqu'un avait rayé « sans gloire
». Lionel, justement, la scène incroyable et qui est vraiment le pivot du livre, c'est lorsque d'un seul coup, le chef, l'amiral, hein, c'est ça, de l'armée, se rend compte qu'il s'est fait piéger.
Le généralissime dans
le jeu. Oui, le généralissime, ouais. Voilà. Mm-hmm. Et que, en fait, alors qu'il pensait vraiment que tout était simple, tout était facile, par une stratégie inattendue, originale, d'un seul coup, il se retrouve sans savoir comment réagir, tout simplement parce que c'est pas écrit dans le manuel.
Oui, effectivement. On a dans la volonté, on a en fait finalement deux justement cultures jusqu'au boutiste, dont les deux dirigeants, donc le généralissime d'un côté et le gouverneur de l'autre, sont les incarnations. Et en fait, j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire tout le livre, mais notamment le début où il y a une espèce de jeu de chat et de la souris où chacun se fait la politesse pour se rendre. Puisque l'Empire débarque en disant vous avez vu, on a des machines, vous avez que des bateaux en bois, enfin ok,
arrêtons-nous tout de suite,
voilà. Et le pays envahi répond: écoutez, si on vous a demandé un temps de réflexion, c'est pour vous laisser le temps de vous rendre compte que vous gagneriez pas. Donc oui, il y a, je trouve que c'est intéressant de pouvoir mettre, on va dire, dans la tête du général qui a toujours l'habitude de gagner, ou en tout cas d'avoir une bataille vite expédiée et les choses sont vite faites, même si cet empire a quand même eu, on le voit dans d'autres textes, quelques revers qui ont pu marquer des générations. Mais bon, l'empire a un plan de conquête qui est prévu pour durer plusieurs siècles, puisqu'il est dirigé par, enfin, il est conseillé par un dragon. Et donc c'était assez amusant justement de pouvoir avoir quand même malgré tout un officier qui peut se rendre compte, de se dire oups, j'ai peut-être fait une erreur, et qu'il éprouve à son tour la terreur du champ de bataille.
C'est vrai qu'on n'imagine pas Nivelle, Joffre ou quelques autres dans ce rôle-là. Je crois que même à la fin de leur vie, ils n'avaient toujours pas compris qu'ils avaient fait des grosses conneries, quoi.
Effectivement, c'est marrant que vous citiez ça, parce que il y a une pièce que j'aime beaucoup qui est un petit peu en sous-jacente, en tout cas à la volonté du dragon, qui est L'Aiglon d'Edmond Rostand, qui est cité d'ailleurs avec la célèbre tirade de Grognard et nous, les petits, les obscurs, les sans-grades, nous qui marchions. On connaît souvent cette tirade, puisqu'on souvent l'a prise à l'école, où en fait on a, donc c'est l'histoire du jeune fils de Napoléon qui doit avoir 12 ans, je crois, dans la pièce, qui est loin de la France, puisqu'on l'a évacué. Il coule une existence dorée, on veut surtout pas qu'il revienne parce qu'il pourrait être un symbole pour faire ressusciter l'Empire, etc. Donc on est dans ce contexte-là. Et on a justement un ancien grognard, un ancien soldat de Napoléon qui a connu toutes les horreurs des campagnes, notamment la retraite de Russie, et qui se révèle alors qu'il est un laquais, et qui a justement, alors je suis navré, je l'ai prise à l'école, mais je ne m'en souviens plus très bien, dit, et nous les petits, les obscurs, les sans-grades, nous qui marchions fourbus, blessés, crottés, malades. Il y a toute une tirade qui est absolument merveilleuse et que je trouve c'est un des plus beaux passages de la littérature française. Il fait une description absolument atroce en Alexandrin, magnifiquement écrite, de ce qu'était l'horreur de la guerre. Mais ce qu'on sait souvent moins, c'est pourquoi est-ce que ce type-là se révèle à ce moment-là dans la pièce. C'est parce qu'on a un ancien maréchal de la Grande Armée qui a plus ou moins trahi Napoléon. Et on lui demande, mais enfin, pourquoi vous l'avez fait? Vous étiez un de ses plus proches. Et il répond, vous comprenez, on était toujours loin de la France, en train de courir et tout pour aller aux prochaines conquêtes. On était fatigués. Ce qui suscite l'indignation de Flambeau.
Julien Delval, sur la question du modèle, la particularité pour un illustrateur, en particulier pour une couverture, c'est qu'il faut que ça soit attrayant pour le lecteur. Est-ce qu'un guerrier, c'est un bon sujet, justement, pour attirer le lecteur?
Je pense, oui.
Ouais. C'est plein de promesses.
Ouais, c'est plein de promesses. Faut voir quand l'éditeur demande une couverture, quand il y a ce type de héros, il veut le voir. Quoi. Il veut qu'on le présente. Et
qu'on entende le bruit de l'armure, un peu.
Oui, oui, faut que ça brille, faut que ça attire, faut que ça... Ouais, non, mais... C'est le personnage, un des personnages les plus forts. Enfin, c'est vraiment le héros, quoi. C'est le... Donc, il faut le représenter, ouais, au maximum.
Mais est-ce qu'on se pose quand même ces questions sur le côté positif, côté négatif du personnage?
Je pense qu'il y a deux sortes de guerriers. En effet, il y a des guerriers qui ont vraiment beaucoup d'honneur et qui, eux... sont peut-être représentés différemment que des guerriers qui sont, eux, vraiment des grosses brutes qui utilisent leur savoir pour uniquement tuer. Donc, je pense que là, on peut faire deux distinctions graphiques sur ce genre de personnage. Mais le guerrier, il y a tellement de représentations de guerriers. Le super-héros est un guerrier. Quoi. Donc, c'est le héros, quoi. Vraiment, typiquement, le guerrier, c'est le héros, je pense.
Donc, il y a quand même la connotation positive.
Donc oui, c'est le. Oui, on veut ressembler au héros. Il est fort, il a peur de rien, il est costaud, il sait tout. Donc oui, on voudrait être comme lui, je pense.
Et sur ce qu'on vient d'évoquer, sur les illustrations qu'il peut peut-être y avoir la plus à l'intérieur, on va dire, ou en bande dessinée, justement, là aussi, est-ce que c'est facile de représenter la guerre, le combat?
Justement, je viens de finir une BD qui s'appelle Les Petits Soldats. Donc il y a des séances des séquences de guerre et on a représenté vraiment très très crûment des grosses scènes de bataille, et à côté de ça on a représenté aussi la guerre bien rangée, les petits soldats, toute cette chose qui est joyeuse, qui est belle, qui est bien rangée, puis l'inverse qui est la fin de la guerre qui est la destruction et l'horreur.
Il y a un aspect chaotique quand même.
Il y a le chaos, voilà, le début bien rangé, puis à la fin le chaos final.
Alors voilà, tous ces guerriers, ils sont là, ils sont lancés. Lionel, il y a une autre métaphore dans La Volonté du Dragon, c'est la lutte entre la technologie d'un côté, et puis finalement quelque chose de plus traditionnel. Alors, je vais te laisser te dire ce que c'est exactement, enfin ce que pour toi tu as voulu montrer, parce que moi je suis pas sûr de pas dire une bêtise.
Bah. J'ai pas forcément cherché à montrer quoi que ce soit, ni de donner un message véritable. C'est vrai qu'on a d'un côté un empire. Il n'y a pas véritablement de message ni de symbolisme particulier d'une pas voulu représenter une culture ni une autre.
Disons que c'est la qualification de la force qu'utilise ce peuple qui est particulière finalement. Ben,
en fait, dans la volonté, donc dans l'univers des Vanégir, en tout cas dans cette époque-là, on a l'Empire d'Azeroth d'un côté, donc qui a trouvé une façon en fait d'apprivoiser les champs magiques du monde pour alimenter des machines, pour avoir des armes, pour avoir en gros des tas de machines très utiles d'ailleurs à la fin. C'est je compare un petit peu cette énergie à finalement l'énergie atomique. C'est vous pouvez chauffer des maisons et allumer la lumière avec, comme vous pouvez faire des bombes atomiques. Donc il y a une question là d'usage du pouvoir. Et en fait, de l'autre, on a effectivement qu'un pays traditionnaliste, disons que qui croit au fait que chacun a été placé à un endroit par une force, une vaste force qu'ils appellent le La, et qui, en fait, le but de chaque personne dans cette société est de découvrir la place où il doit être et d'apprendre ensuite sa vie entière à vivre en paix avec cette place. Ce qui est, soyez en passant, une façon géniale de maintenir un ordre social, puisque c'est institutionnaliser le fait que si vous êtes pauvre, bah c'est dommage, mais il va falloir vous y faire. Je ne sais pas si je parle.
Oui,
un
non,
peu...
mais c'est ça. Mais je pense que c'est aussi ce qu'on va retrouver dans Rosée de Feu, parce qu'on a une puissance technologique, les États-Unis, et en face, on va avoir un Japon qui va utiliser à la fois sa tradition, à la fois sa culture. Et puis en plus, Xavier, vous y rajoutez quelque chose qui est un élément important, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais on va quand même en parler, c'est ces dragons. Là, on est vraiment dans la symbolique de la tradition par rapport à la modernité.
Oui, bah c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire, c'est que un roman sur les kamikazes, ça se passe dans le ciel, donc il fallait travailler la présence dans le ciel. Et pour avoir tout le temps aux yeux du lecteur tradition et modernité, bah, la modernité c'était la guerre en mouvement, la guerre en acte, donc la tradition c'était les dragons. Dragons qui sont d'origine chinoise, en fait les dragons japonais sont des dragons chinois qui ont muté. Et en fait j'ai effectué un renversement, puisque le dragon, le Ryu, appartient à l'ordinaire depuis des milliers d'années des Japonais, et le merveilleux, l'étrange, l'inquiétant vient toutes les nuits à 10 000 mètres en formation serrée. Ce sont les bombardiers qui n'ont même pas de camouflage comme peuvent avoir les dragons, ils n'ont même pas de belles couleurs. Ce sont des lames d'acier qui traversent le ciel et qui sont terrifiants. Et en fait, tradition et modernité, le tout vu par un petit garçon, le tradition et modernité, réalisme et merveilleux s'inversent.
Il y a tout un passage sur la formation de ces pilotes kamikazes. Et il y a quelque chose de très particulier, du coup, par rapport à des pilotes d'un avion plus traditionnel, c'est que, alors je vais employer vraiment le mot, il faut apprivoiser son appareil.
Oui, voilà. Il faut l'apprivoiser, mais c'est pas non plus c'est pas non plus Rintintin ou.
Ah oui, non, c'est pas ça, mais on comprend.
Rusty.
On comprend quand même que.
Il faut les apprivoiser, c'est-à-dire que.
Gentil avec quand même. Hein.
Si le dragon qu'on vous a signé sent que vous avez peur, il va retourner la tête et vous cramer, et puis c'est fini. On perd un pilote et un dragon, parce que comme il a brûlé la chair humaine, il est pas récupérable. Donc oui, mais une fois qu'ils sont unis, d'ailleurs, il y a une marque qui est faite par le souffle du dragon au bras de son pilote. Il y a un lien mental qui s'établit, puisque dans le roman, en tout cas, les dragons, il y a une zone neutre qui est délimitée par la vision du pilote et la vision du dragon qui est noir et blanc. Et au fur et à mesure qu'ils entrent en empathie, la vision se prend des couleurs jusqu'à désigner des zones de danger d'une couleur rouge, puisque AXA, c'est le rouge, en japonais ça désignait les Américains, donc j'ai intégré littéralement voilà. Oui, donc il faut effectivement apprivoiser les dragons, mais bon, une fois que c'est fait, c'est l'affection que peuvent avoir le camp d'en face pour ces appareils, pas plus.
Peter Brett, sur ces liens, ces stratégiques, ces oppositions peut-être entre entre modernité et tradition. Vous aussi, c'est une manière de traiter la guerre.
Yes, I.
Parce que vous évoquiez la guerre du Vietnam tout à l'heure. On est aussi un peu dans ce registre-là.
I think that this is the nature of war. I mean, there's always a conflict between something that's been there for a long time and a new idea or a new power that's rising, and those two come into conflict. And so that's where war comes from. I think it's always sort of the past against the future. And so it changes with every generation. And some traditions have the strength to last throughout many generations, and other ones are imperfect and need to be swept away. And it's hard for us to tell the difference between the two when there are personal traditions. But when you look at kind of history as a whole, you can see that there are some that have held on throughout human history and others that were taken away as obsolete. And it can be very difficult when you're in the thick of it to tell which is which. I'm not sure that entirely answers the question.
Oui, alors je pense que c'est la nature même de la guerre. Pour moi, c'est un conflit entre ce qui est en place depuis longtemps et une nouvelle idée qui arrive. C'est ce conflit, c'est ça qui est à l'origine de la guerre. C'est toujours un conflit entre le passé et l'avenir. Ça change donc avec chaque génération. Après, il y a des traditions qui durent longtemps, d'autres qui sont imparfaites et qui vont être vite effacées. Mais c'est plus difficile quand c'est quelque chose de personnel, des traditions personnelles. En revanche, quand on étudie l'histoire de loin, on voit bien les traditions qui ont tenu et celles qui sont devenues obsolètes assez rapidement. Mais quand on est au cœur de l'histoire, c'est assez difficile à déterminer. Maintenant, je ne suis pas sûre d'avoir tout à fait répondu à la question.
Mais si, yes. Pas de problème. Je vais finir avec Julien Delval. Quand on est illustrateur, est-ce qu'on doit jouer aussi avec un certain imaginaire collectif? Parce que là, on parle du guerrier aussi, en se posant la question de savoir si c'est un modèle. Chacun, finalement, on a un peu la conception de ce à quoi peut ressembler un guerrier. Est-ce qu'on vient vous voir de temps en temps, vous disant « Oh, votre guerrier, c'est exactement comme ça que je l'imaginais » ou au contraire « Oh, bah, je ne me suis pas du tout reconnu
» Difficile à répondre. En général, oui, si, on se reconnaît puisque j'utilise des codes, en effet, qui sont très utilisés pour les guerriers. Moi, j'essaie d'en chercher des nouveaux, ce qui est pas facile. Par exemple, pour l'ange du chaos, qui est un guerrier terrible, je l'ai représenté avec des cheveux longs, une espèce de cape qui ressemble à des ailes, etc. Et finalement, c'était pas du tout la description de l'auteur, mais ça correspondait au mental de ce guerrier. Enfin, c'était plus proche quelqu'un qui était pris dans une voilà. Il faut retrouver des éléments graphiques qui apportent de la force en plus. Même si souvent les guerriers, ils ont pas trop d'armes sur eux, pas trop d'éléments, d'attributs, parce qu'il faut qu'ils puissent combattre. Mais graphiquement, du coup, ça devient assez pauvre. Donc on triche et on rajoute quelques attributs, des capes au vent qui s'écartent tout de suite quand le guerrier veut combattre. Enfin, des armes qui font partie de lui-même, donc qui deviennent vivantes elles-mêmes. Qui permettent le sable peut venir directement dans la main. Voilà, donc c'est plutôt là-dessus, moi, que je travaillerai, en tout cas, sur des choses en métal, lourdes, travaillées, mais qui toujours sont pris dans un souffle qui permet au guerrier d'exprimer son mouvement.
Un compromis entre la force et la souplesse?
Complètement, ouais, c'est ça. Ouais, c'est les choses dures du métal et la souplesse du muscle. Donc moi, c'est là-dessus que j'aime bien travailler, en tout cas.
En tout cas, vous avez bien fait de me corriger, parce que je parlais des lecteurs, j'avais oublié qu'il y avait les auteurs aussi qui étaient un petit peu concernés par vos illustrations. Vous avez bien fait de le rappeler. Mais là aussi, finalement, est-ce que, comme vous le disiez, est-ce que c'est facile de présenter un dessin qui ne correspond pas à la description de l'auteur et de le convaincre que pour la couverture de son livre?
Ça, c'est le boulot de l'éditeur.
Mais on peut se retrouver avec son dessin qui revient avec marqué un peu comme une copie, avec marqué hors sujet.
Non, on fait des petits ajustements, mais en général, ça se passe bien.
On va remercier.
Juste une toute petite chose. Heureusement qu'il y a l'éditeur et l'illustrateur, hein, parce que quand j'ai présenté le projet à l'éditeur, j'ai dit ouais, ça va être un roman inspiré du théâtre de marionnettes Bunraku et répondant aux 5 éléments de la pensée chinoise. Et Olivier Girard a dit je téléphone à Manchu.
Oui, Manchu qui a donc réalisé cette magnifique. Elle est vraiment très très belle cette couverture et vraiment ça.
Ils savent mieux des fois ce qu'il faut faire.
Juste Xavier, parce que puisque on va finir avec vous, mais juste pour préciser, parce que je vous l'ai dit quand je suis venu vous voir hier, mais n'ayez pas peur de Rosée de Feu. C'est un véritable roman historique, c'est vrai. Il y a des éléments de merveilleux à l'intérieur, mais Xavier a concocté quelque chose, une recette qui est extraordinaire parce que. On ne se rend pas compte finalement de ce mélange de genres. C'est un formidable, très beau livre. C'est le cas également du livre de Lionel. Mais c'est vrai que quand on dit c'est un roman sur les kamikazes, sauf qu'ils ne pilotent pas des avions, ils pilotent des dragons, des fois on a des gens en face qui nous regardent un peu avec des yeux tout ronds. Non, n'ayez pas peur parce que c'est vraiment un très très beau roman. Et je pense qu'on en apprend énormément sur cette période historique. Et on comprend vraiment beaucoup mieux tout ça, avec un point de vue en plus très original. Merci en tout cas à nos auteurs présents. Et puis, vous avez encore quelques minutes pour aller discuter avec eux sous la bulle du livre. Quelques minutes encore pour profiter de ces 10e imaginales. Et puis, pourquoi pas, aller acheter les livres de nos auteurs. Et moi, je vous dis à l'année prochaine parce que j'ai fini.